Bonjour. À Biarritz, le chassé-croisé de la fin des vacances, c'est celui du G7. Alors que les CRS arrivent, certains habitants fuient la ville ou se préparent à rester enfermés pendant le grand rendez-vous diplomatique de la rentrée. Reportage. Un contre-sommet se prépare, lui, un peu plus loin, à Hendaye. On en parle à 8h20 avec votre invité, Pierre Veil.
Cécile Duflot, la directrice générale de l'ONG Oxfam, qui lutte contre la pauvreté et les inégalités, elle participera à ce contre-sommet du G7 à Hendaye cette semaine, sommet des alternatives. Vos questions pour Cécile Duflot dès maintenant au standard de France Inter 01 45 24 7000. Elle sera avec nous à 8h20 et vos questions vers 8h35.
Les dirigeants des plus grandes économies démocratiques le verront-ils devant eux? L'océan étouffe dans un bain de micropolluants d'origine chimique. Explication. Lui n'est plus invité depuis 2014. Vladimir Poutine est consulté aujourd'hui par Emmanuel Macron à Brégançon, alors qu'à Moscou, le président russe affronte un mouvement de contestation. En Italie, le corps du randonneur Simon Gauthier est en train d'être remonté par les secours. Après 9 jours de recherche, il a été retrouvé hier au fond d'un ravin. Dans ce journal, enquête au Parlement européen où le Rassemblement national de Marine Le Pen n'entend pas se séparer de certains assistants parlementaires malgré leur mise en examen. L'incroyable mésaventure française de 3 touristes vénézuéliennes et colombiennes en transit à Roissy, elles se sont retrouvées sans raison valable en centre de rétention pendant plus de 10 jours. L'île passe aux 30 km/h. Nous entendrons la maire Martine Aubry qui estime qu'elle n'a plus le choix et un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
France Inter.
Biarritz attend le G7 de pied ferme. À partir de samedi, les dirigeants des 7 grandes économies démocratiques se retrouvent dans la chic station balnéaire de la Côte Basque. Un rendez-vous placé sous haute sécurité, trop pour les 26 000 habitants qui devront avoir un badge pour circuler dans certains secteurs. L'aéroport et la gare seront fermés samedi. La gare par où notre reporter Mathilde Dehimy a commencé son tour de ville.
Sur le quai, Thérèse et Marion se croisent.
Moi, je m'en vais.
Et je m'en vais aussi. Je pars mardi pour une semaine.
Elles ne sont pas les seules habitantes à fuir le sang.
C'est pas possible.
On va être contrôlées en permanence. On ne va pas pouvoir sortir faire nos courses. Et faire ça en plein mois d'août, c'est une aberration totale.
Une date qui laisse aussi songeurs les touristes. Marie-Laure et sa famille du Lot avaient enfin réussi à se payer une petite semaine de vacances.
On est un peu frustrés. On a réservé, on ne réserve pas aux dernières minutes. Donc, on n'a pas eu l'info, nous. Voilà. Pourquoi tout s'arrête?
Les biarros qui restent s'organisent. Annie restera chez elle, philosophe.
J'ai des commerçants à côté. 3 jours, c'est pas un problème. Hein.
Des militaires passent, puis des CRS, puis des policiers en patrouille. Papa, surfeur renommé, grince.
Les uniformes, c'est pas ce qu'on veut l'été. Quoi. On est habitués au maillot, tout ce qui va avec.
On se presse sur la plage avant l'arrivée des nuages. Au bout, l'hôtel du Palais accueille toujours des clients avant l'arrivée des chefs d'État. Daniel, concierge, sera aux premières loges.
Je ne sais pas si je pourrais faire mes vitres ou si on va me dire rentrez madame.
Et elle n'a pas l'intention de modifier son quotidien.
Qu'on m'empêche ou de sortir mes chiens ou d'aller chercher ma baguette et on va me laisser y aller. C'est pas parce qu'il y a le G7 à Biarritz que je ferai le stop. On n'est pas en temps de guerre, je crois, non ?
Les parkings souterrains du front de mer sont désormais fermés et beaucoup de biarros, des commerçants notamment, restent dans le flou sur ce qui les attend.
Un peu plus loin, les anti-G7 sont cantonnés entre Hendaye et Irun, avec aussi une manifestation prévue à Bayonne. Les ONG ont promis des actions festives et pacifiques. Le ministère de l'Intérieur, lui, redoute l'arrivée de manifestants violents, des black blocs français ou étrangers. Des dizaines d'interdictions du territoire ont été prises. Les chefs d'État seront accueillis dans un hôtel de luxe sur la grande plage. Face à eux, un océan très pollué. Le golfe de Gascogne est même jugé agonisant ce matin par un rapport de France Nature Environnement. L'association veut interpeller les gouvernements sur les micropolluants d'origine chimique, Célia Kiré.
L'océan a perdu son odeur iodée, sa surface est grasse et lorsqu'il y a une tempête, c'est une mousse blanche ou brunâtre, très épaisse, qui s'échoue sur les rivages. France Nature Environnement accuse une pollution invisible mais redoutable, liée à des détergents, produits nettoyants et lessives. Les micropolluants utilisés passent en effet très facilement à travers les stations d'épuration. Ils sont rejetés dans les océans. Michel Botella, pétrochimiste, alerte sur ce sujet depuis 20 ans.
Lors de la dernière tempête de Gabriel en février, j'ai prélevé de la mousse sur une plage d'Anglette, là derrière le phare de Biarritz. Nous pulvérisons les records de concentration en tensioactifs, c'est-à-dire des détergents d'origine pétrochimique, qui n'est plus admissible. C'est notre cri d'alarme permanent dans les institutions, ministères et y compris Bruxelles.
Et certains arbres, des pins maritimes, sont grillés par les embruns marins qui contiennent également des micropolluants. Pour les militants de France Nature Environnement, le G7 doit retirer du marché ses détergents pétrochimiques, comme cela vient d'être fait pour certains plastiques. D'ailleurs, précise-t-il, les industriels produisent déjà des détergents d'origine naturelle et biodégradable. Sinon, le golfe de Gascogne risque de devenir une zone morte avec très peu d'oxygène et une faune marine de plus en plus rare.
Célia Kiret, aujourd'hui c'est au bord de la Méditerranée à Brégançon que Vladimir Poutine est lui attendu pour une réunion de travail avec Emmanuel Macron. On ne sait pas si ce cadre estival va permettre au président français de dégeler les relations avec son homologue russe. C'est en tout cas une façon de consulter la Russie alors qu'elle est exclue des réunions des grandes puissances. Le G8 est redevenu G7 depuis son soutien aux séparatistes ukrainiens en 2014. Et au moment où en Russie, le pouvoir de Vladimir Poutine affronte une nouvelle vague de contestation fortement réprimée à Moscou, Jean-Didier Revoin.
L'exclusion des candidats de l'opposition à l'élection du Parlement de Moscou a mis le feu aux poudres. Nombre de moscovites ont eu le sentiment de se faire confisquer leur citoyenneté, se retrouvant dans les faits privés de droit de vote et par conséquent exclus du débat politique. Une situation que dénonce Kirill, 46 ans.
Personne ne veut de conflit armé. Personne ne veut se battre avec la police. Les gens veulent forcer ceux qui ont le pouvoir à s'asseoir pour commencer à discuter. Et de mon point de vue, la meilleure option, c'est le compromis.
Mais pour le moment, la répression domine, car selon Andrei Kolesnikov du Carnegie Center à Moscou, le pouvoir a été pris de court par l'ampleur de la protestation.
Ils n'étaient pas prêts à une résistance aussi féroce. Ils n'étaient pas prêts à un retournement aussi important. Ils n'étaient pas prêts à une protestation aussi massive.
Une mobilisation qui s'explique par la baisse du niveau de vie et du pouvoir d'achat des Russes, ainsi qu'une économie anémiée qui offre peu de perspectives. Autant de problèmes auxquels le pouvoir doit apporter des solutions, ne serait-ce que partielles. Mais pour l'instant, le Kremlin se retranche derrière un silence pesant. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Il est 8h07, le journal Sarah Guibaudot. Sarah, 9 jours après son appel de détresse au secours italien, le randonneur Simon Gauthier a été retrouvé mort hier soir dans un ravin à près de 200 kilomètres au sud de Naples.
Oui, les proches de l'étudiant français de 27 ans s'étaient mobilisés depuis une semaine. Ils estiment que les recherches ont démarré trop tard. Simon Gauthier se trouvait dans un secteur isolé et son téléphone n'avait pas pu être géolocalisé avec précision. Les secours alpins sont en train de remonter son corps. À Rome, Antonino Gallofaro.
La récupération du corps de Simon Gauthier a commencé ce matin à l'aube. La zone étant très difficile d'accès, le secours alpin fait savoir que les opérations seront complexes et donc très longues. Le jeune Français de 27 ans disparu il y a 10 jours n'avait pas été récupéré hier soir pour des raisons de sécurité pour les secouristes. On se trouve là dans le Cilento, une région côtière au sud de Naples qui n'est faite que de falaises escarpées qui tombent dans la mer. Les secours ont utilisé des cordes et des techniques d'alpinistes et de spéléologues hier pour descendre dans le ravin où se trouve Simon Gauthier. Ils ont passé toute la nuit auprès de son corps qui a été installé sur une civière. Ce matin à l'aube donc, avec une meilleure visibilité, ils ont commencé à le transporter à la main en direction de la plage où un navire des forces de l'ordre les attend. Les secouristes ont choisi cette option car la plage se trouve à 200 mètres d'où le corps a été retrouvé et non un transport en amont. Il y a 10 jours, lorsque Simon Gauthier avait pu appeler les secours, il n'avait pas réussi à donner d'indication exacte sur le lieu où il se trouvait, seulement qu'il voyait la mer. De là, il ne pouvait pas bouger car, comme il l'avait expliqué durant cet appel, il venait tout juste le 9 août dernier, de tomber d'une falaise et de se casser les deux jambes. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Le Parlement européen prépare sa rentrée dans 2 semaines et pour l'instant c'est le recrutement des assistants parlementaires qui bat son plein. Les assistants parlementaires, c'est ce qui vaut à Marine Le Pen et à plusieurs élus et salariés du Rassemblement National d'être mis en examen et de se voir réclamer 300 000 euros de fonds européens qui n'auraient servi qu'au parti français. Alors, est-ce que le Rassemblement National a fait le ménage à Bruxelles? La réponse est non, Maxence Lambrecq.
Qu'importe les enquêtes, les poursuites, Marine Le Pen continue de faire confiance à ses fidèles. On ne change pas une équipe qui gagne et voici le résultat. Guillaume L'Huillier, mis en examen comme assistant de Bruno Gollnisch, à nouveau embauché, cette fois par l'ancienne assistante de Jean-Marie Le Pen, Annika Bruna, devenue députée. Nicolas Crochet, renvoyé lui au tribunal correctionnel cet automne pour le financement des campagnes de 2012 à 2015, reste le tiers payant d'une majorité d'eurodéputés RN. Il est ainsi chargée de verser les salaires aux assistants. Catherine Griset, mise en examen en tant qu'assistante de Marine Le Pen, est-elle devenue députée européenne et embauche les assistants du mandat précédent? D'ailleurs, quasiment tous les nouveaux élus du RN restent fidèles aux anciens collaborateurs. Marine Le Pen surveille tout cela de très près. Elle se méfie des petits nouveaux qui ont été très nombreux à candidater et suggère plutôt le recrutement d'élus locaux ou de fidèles militants, à condition qu'ils n'apparaissent pas dans l'organigramme du parti, pour éviter de nouvelles accusations d'emploi fictif.
Maxence Lambrec, la folle mésaventure de trois touristes sud-américaines en France. Fin juillet, une Vénézuélienne et deux Colombiennes arrivent en transit à l'aéroport de Roissy. Elles attendent une correspondance pour Genève ou Madrid, mais la police aux frontières leur reproche, selon les cas, de ne pas avoir assez d'argent ou pas d'attestation d'hébergement dans l'espace Schengen. Les trois voyageuses se sont retrouvées en centre de rétention près de Paris, puis à Oissel, en Normandie. Un véritable cauchemar jusqu'à ce que la justice ordonne leur libération. Flavien Groyer.
Wilma arrive à l'aéroport de Roissy le 29 juillet. Elle doit prendre une correspondance pour Genève, passeport à la main, quand elle est arrêtée par la police aux frontières.
On me reprochait de ne pas avoir assez d'argent sur moi, mais pourquoi j'étais attendue et puis on me demandait aussi une attestation d'accueil en Suisse.
En attendant de récupérer ce fameux document, Wilma est conduite dans un centre de rétention près de l'aéroport. Elle réussit à contacter sa belle-mère. Celle-ci lui envoie l'attestation. On répond à Wilma que le document n'a pas de valeur. Wilma montre donc ses billets retour et puis surtout,
j'ai une bonne raison de voyager, je vais voir mon fils.
Son fils de 20 ans, très malade, est hospitalisé à Genève. Rien n'y fait, Wilma passe 12 jours dans ce centre, considéré comme une criminelle.
Tout ça, c'était de la maltraitance psychologique. La police, elle nous a intimidés. C'était vraiment horrible.
À trois reprises, la Vénézuélienne refuse de repartir à Caracas comme on lui propose. Alors le 8 août dernier, on lui annonce son transfert dans un autre centre, celui de Oissel. Elle passe devant le tribunal de Rouen. Les magistrats la libèrent et l'assurent. La rétention est irrégulière. Quand elle sort du centre, elle ne sait même pas où aller. Elle n'a ni valise ni passeport. Aujourd'hui, Wilma est hébergée chez une bénévole de l'association Welcome.
Tout ce que je veux maintenant, c'est qu'on nous laisse partir. S'il vous plaît, qu'on me laisse partir voir mon fils.
Un reportage de Flavien Groyer de France Bleu Normandie.
8h12, Sarah, les footballeuses américaines vont en justice pour l'égalité des salaires.
Et ce n'est pas leur dernier titre de championne du monde qui va les faire changer d'avis. Les équipières de Megan Rapinoe ont déposé au printemps dernier un recours collectif devant un tribunal de Los Angeles. Depuis, les négociations avec la Fédération américaine de football ont capoté et une nouvelle audience est prévue aujourd'hui à Washington. Grégory Phillips.
Elles ont gagné 4 Coupes du Monde et 4 titres olympiques, mais elles continuent à être moins bien payées que leurs collègues masculins. À titre d'exemple, en 2014, la Fédération américaine avait offert aux hommes un peu plus de 5 millions de dollars pour avoir atteint les 8e de finale du Mondial au Brésil. Un an plus tard, la même fédération ne versait qu'1,7 million aux femmes qui pourtant venaient de remporter leur 3e Coupe du Monde au Canada. On veut l'égalité salariale, commente l'attaquante Kristen Press, invitée la semaine passée de la matinale de ABC. Quand on gagne, on veut les mêmes compensations que les hommes. Et notre combat concerne toutes les femmes dans le monde professionnel. Donc nous irons jusqu'au procès, s'il le faut, et avec confiance. Mercredi dernier, à New York, les négociations entre la Fédération américaine et les représentants des joueuses ont échoué. Et toujours sur ABC, la star Megan Rapinoe se montre ferme. On n'acceptera rien de moins que cette égalité salariale. La présentatrice demande alors aux deux championnes du monde ce qu'elles feront si leur action de groupe échoue. Iront-elles jusqu'au procès? Vous nous demandez ce qui se passera si on perd, mais la défaite, on ne sait même pas ce que c'est, répond-elle amusée. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
En France, les spéculations vont bon train sur la succession de Guillaume Pépi à la SNCF. Le nom du futur président doit être dévoilé à la fin de l'été. Et l'hypothèse qui revient en force, c'est Guillaume Pépi lui-même à la tête de l'entreprise publique depuis 2008. Il avait pourtant affirmé qu'il ne solliciterait pas de troisième mandat, Maxime Debs.
C'est l'exécutif qui est à la manœuvre et qui aura le dernier mot, mais remplacer un Guillaume Pépi ne se fait pas comme ça. Omniprésent, omnipotent depuis 11 ans, l'homme a transformé et façonné l'entreprise entreprise à son image. On parle même, pourquoi pas maintenant, de lui faire faire du rab, lâche plusieurs sources en interne. Comment pourrait-il en être autrement, s'interroge un élu syndical pour qui l'option est sur la table. Changer de capitaine maintenant, ce serait dangereux. La SNCF entame le plus gros virage de son histoire. Les concurrents arrivent. Il y a aussi le passage en société anonyme. La fin du statut, les conditions de travail des futurs cheminots qui restent à négocier. Des inconnus partout, une poudrière dans laquelle personne n'aurait a priori envie de se hasarder. Seul Patrick Janté, patron d'SNCF Réseau, s'est jusqu'ici porté candidat officiellement. À côté de lui, le nom d'Elisabeth Borne a circulé, celui de Florence Parly aussi, la ministre des Armées qui a depuis démenti. Un cabinet de recrutement américain a désormais l'affaire en main, tandis que Guillaume Pepy est lui en vacances, mais pas trop loin, comme pour garder un œil sur la place qu'il occupe depuis si longtemps.
Automobilistes, ralentir. À partir d'aujourd'hui, Lille passe progressivement aux 30 km/h, sauf sur les grandes avenues qui resteront à 50. 200 villes l'ont déjà fait, dont Grenoble. La maire de Lille, Martine Aubry, estime que le réchauffement climatique ne lui laisse tout simplement pas le choix. Écoutez.
On a fait déjà le plan de circulation, vous vous en souvenez, il y a 4 ans. Ça a changé les habitudes. Moi-même, ça a changé beaucoup mes habitudes pour rentrer chez moi. Et alors ? On ne peut pas à la fois manifester et ne pas faire. Là, maintenant, on est au mur, parce que moi, je crois qu'on est au mur. Hein. On n'a plus le choix. Donc, quand on a fait ce plan de circulation, on a surtout entendu ceux qui étaient contre. On voit aujourd'hui, par l'étude qui a été faite, que sur la Grand Place, il y a eu 1 degré, par exemple, de moins au bout d'un an déjà de chaleur. Enfin, moi, je ne fais pas de la politique pour plaire immédiatement à tout le monde. Je fais de la politique parce que je crois en certaines valeurs et que je pense que le projet social et durable, c'est le seul projet qu'on peut porter aujourd'hui quand on est maire.
Martine Aubry au micro d'Emmanuel Bouin de France Bleu Nord. Un orage de grêle impressionnant hier dans le Beaujolais. Il a laissé des vignes et des jardins dévastés. Ce matin, Météo France a levé l'alerte orange aux orages pour les derniers départements concernés. Au programme de la rentrée littéraire, Ilana Moriousef a lu pour nous quelques-uns des 524 romans annoncés. C'est un petit peu moins que les années précédentes. Et c'est dans l'actualité sociale que certains des plus beaux romans ont puisé leur inspiration, Ilana.
Un couple de pouvoir, lui journaliste vedette, elle essayiste reconnue, leur vie bascule quand leur fils est confronté à une accusation de viol. Le déterminisme social et la notion de consentement sont au cœur du roman très attendu de Karine Thuil, Les choses humaines. Abus sexuels, viols sont également présents dans le premier roman de Geoffrine Donadieu, Une histoire de France où l'agresseur est une femme, dans le roman de Mazarine Pinjot, Se taire, dans l'enquête de Zineb Drieff et de Mathieu Deslandes, Soir de fête, et surtout dans Girl de l'Irlandaise Edna O'Brien sur les jeunes filles enlevées par Boko Haram au Nigeria. Sur la souffrance au travail, le burn-out et les restructurations, Vincent Message signe Cora dans la spirale. Dans Propriété privée, Julia Deck évoque avec ironie un couple qui s'installe dans un éco-quartier. Plusieurs romans abordent le thème de l'exil ou des migrants. Marie Darieussecq dans La mer à l'envers, Louis-Philippe d'Alembert dans Mur Méditerranée et Léonora Miano dans Rouge Impératrice, une dystopie sur fond d'Afrique imaginaire.
Neymar n'est pas encore parti, qu'il manque déjà au Paris Saint-Germain. Le PSG battu par Rennes 2-1 hier soir dès la deuxième journée de Ligue 1. Et c'est le capitaine Thiago Silva qui le dit, Neymar est indispensable. Allez, le mercato dure encore un mois, mais aujourd'hui le PSG dit qu'il n'a pas de solution pour laisser partir la star brésilienne.
C'était le journal de Sarah Guibaudot. Les couleurs du ciel, la météo en ce lundi 19 août. Stéphanie Fromentin est avec nous. Stéphanie, oui. La perturbation pluvieuse s'éloigne doucement.
Voilà, une large bande nuageuse bien compacte est encore présente quand même ce matin du Pays Basque à l'Alsace en passant par Auvergne-Rhône-Alpes et Pyrénées-Atlantiques. Dans cette zone, les pluies seront localement soutenues, accompagnées d'orages, notamment dans le Dijonais. Cette bande perturbée rétrécira largement en cours de journée pour se concentrer sur les Pyrénées, les Alpes en passant par Auvergne et le Rhône. Les précipitations parfois denses sont localisées sur les reliefs et les coups de tonnerre essentiellement près de la frontière espagnole, laissant aussi déborder quelques gouttes sur le pourtour méditerranéen. Ailleurs, le ciel est plus clément. Les nuages et les averses accompagnés de vents à 50 km/h sont localement présents en bordure de Manche. Mais sur le reste de l'Hexagone, de l'embouchure de la Garonne aux frontières belges, le soleil fera souvent de belles apparitions. Il sera même encore généreux sur les côtes varoises et la Corse, Mistral et Tramontagne soufflant modérément 50-60 km/h dans leur domaine.
Et le mercure accuse une légère baisse.
Cet après-midi, les valeurs sont stationnaires sur le nord du pays, mais en baisse dans le sud-ouest. Vous ne dépasserez pas les 18-24 degrés en général, jusqu'à 26 à 33 dans le sud-est. Il fera 19 degrés à Boulogne-sur-Mer, 21 à Amiens et Rodez, 23 à Paris comme à Biarritz, 25 à Cahors et Strasbourg, 27 au Lavandou près de Brégançon, mais seulement 22 à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
Stéphanie Fromentin.